Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du lundi 4 mars 2024. La Cour suprême des États-Unis a rétabli Donald Trump sur les bulletins de vote au Colorado à la veille du Super Tuesday, où 15 États vont tenir des primaires pour choisir leur candidat à la présidentielle de novembre. Progrès significatif au deuxième jour de négociations au Caire pour une trêve à Gaza. Au Sénégal, les conclusions du dialogue national ont été remises aujourd'hui au président Macky Sall. Togo, l'opposant Agbeyome Kodjo meurt en exil à Accra, c'est au Ghana. En République centrafricaine, vague de réaction au lendemain de l'arrestation de l'opposant Crépin Mboli Goumba.
Ce qui est arrivé à Maître Bourgouba, c'est une arrestation arbitraire. Et donc, il faut que les choses soient claires. Il a été implicitement traité comme un criminel, un grand bandit.
Reportage à suivre dans la partie magazine. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. La Cour suprême des États-Unis a rejeté à l'unanimité une décision d'un tribunal de l'État du Colorado qui avait exclu Donald Trump de la présidentielle de novembre pour insurrection. Le point avec Rosine Monizero.
Dans une décision unanime, la Cour a déclaré que le jugement de la Cour suprême du Colorado ne peut pas être maintenu, ce qui signifie que Donald Trump peut figurer sur le bulletin de vote des primaires de cet État. Cette décision est intervenue à la veille du Super Tuesday, où 15 États organisent simultanément leur primaire pour la présidentielle de novembre et devraient confirmer la marche de M. Trump vers l'investiture républicaine. Sont qualifiés les actes de l'ancien président lors de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, les 9 juges ont considéré que seul le Congrès et non un État est habilité à retirer un candidat du bulletin pour l'élection présidentielle. Donald Trump, favori des primaires républicains, a aussitôt salué une grande victoire pour l'Amérique. Sur la trentaine d'États dans lesquels des recours en inéligibilité ont été engagés contre M. Trump, peu ont abouti. Le Colorado, le Maine et l'Illinois votent également demain. Outre l'affaire du Colorado, la Cour suprême a aussi accepté d'entendre l'argument de M. Trump, selon lequel il est à l'abri de toute poursuite pénale en tant qu'ancien président.
Les négociations sur une trêve dans la guerre entre Israël et le Hamas ont repris au Caire au lendemain d'un appel de la vice-présidente américaine Kamala Harris à un cessez-le-feu immédiat. Eric Manirakiza.
Des représentants d'Égypte, du Qatar et des États-Unis, pays médiateurs, tentent depuis des semaines d'obtenir une trêve permettant notamment une libération d'otages retenus à Gaza en échange de prisonniers palestiniens. Une délégation du Hamas se trouve au Caire. Le Hamas exige un retour dans le nord de Gaza des déplacés, une augmentation de l'aide, un cessez-le-feu définitif et un retrait militaire israélien de Gaza. Israël, qui ne participe pas à ces négociations du Caire, rejette ces conditions, disant vouloir poursuivre ses opérations et exige que le Hamas fournisse une liste des otages retenus à Gaza. La vice-présidente américaine Kamala Harris a appelé dimanche à un arrêt immédiat des hostilités. Madame Harris reçoit aujourd'hui à Washington Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien et grand rival de Benjamin Netanyahu, qui doit ensuite rencontrer le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche Jack Sullivan et le secrétaire d'État Anthony Blinken. Cette visite a été condamnée par des ministres israéliens qui la jugent subversive.
43 pays, dont les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni, ont lancé aujourd'hui un appel commun pour une enquête internationale sur la mort de l'opposant Alexei Navalny lors de sa détention en Russie. Nous sommes indignés par la mort du politicien d'opposition dont la responsabilité ultime incombe au président russe Vladimir Poutine et aux autorités russes, a déclaré l'ambassadrice de l'Union européenne devant le Conseil des droits de l'homme à Genève, s'exprimant au nom des 43 pays. La France devient aujourd'hui le premier pays à inscrire dans sa constitution l'interruption volontaire de grossesse. Le président français Emmanuel Macron a salué une fierté française et un message universel après le vote du Congrès qui a inscrit l'IVG dans la Constitution, une première mondiale. Célébrons ensemble l'entrée d'une nouvelle liberté garantie dans la Constitution, a écrit Emmanuel Macron dans un message publié sur X.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité africaine au Sénégal, le président Macky Sall a reçu ce lundi le rapport du dialogue national sur la tenue de la présidentielle qui a eu lieu la semaine dernière. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, les présidents de commission se réunissent également aujourd'hui pour discuter de la loi d'amnistie initiée par le président Macky Sall. La correspondance de Wani Johnson Sambou.
Tous les regards restent encore braqués au palais présidentiel et aussi à l'Assemblée nationale. À la présidence de la République, le chef de l'État a officiellement reçu ce lundi le rapport du dialogue national. Un pas de plus dans l'évolution de la crise politique que vit le Sénégal depuis plusieurs semaines. Macky Sall attendait ce document pour avancer dans le processus électoral. Le président sénégalais avait en effet assuré que ce sera à l'issue de ces concertations qu'il fixerait la date de la présidentielle. Le 2 juin a fait l'objet d'un consensus lors du dialogue qui a également prôné une reprise partielle du processus. Le président envisage de saisir le Conseil constitutionnel pour recueillir son avis sur la date de l'élection et l'après 2 avril a d'ailleurs rappelé la présidence dans un message sur X. Autre sujet débattu lors du dialogue, la loi d'amnistie est déjà sur la table des députés. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale discute en ce moment même du texte adopté mercredi dernier en Conseil des ministres. Wahani Johnson Sambou Dakar pour VOA Afrique.
L'Agence nationale de gestion des urgences du Nigeria a annoncé un renforcement de la sécurité dans ses entrepôts après le pillage ce week-end d'un dépôt alimentaire de l'État à Abuja, la capitale. Cette scène de pillage commis par des centaines de personnes est le dernier exemple en date des troubles sociaux provoqués par la flambée des prix. Mardi dernier, des milliers de Nigériens ont manifesté contre la cherté de la vie qui a explosé depuis l'arrivée au pouvoir il y a un peu moins d'un an du président Bola Ahmed Tinubu. Au Togo, l'opposant Agbeyome Kodjo est mort à l'âge de 70 ans ce dimanche à Accra, la capitale ghanéenne. Il vivait en exil depuis l'élection présidentielle de 2020 remportée par Fogne Asingbe. Agbeyome Kodjo, à qui la Cour constitutionnelle avait attribué le score de 19%, a toujours estimé que c'est lui qui a remporté le scrutin et que sa victoire lui a été volée. Kossi Oussou.
Je confirme le décès de Dr. Agbeyome Kodjo. Il est mort au Ghana. C'est ce qu'a indiqué Thomas Soukwe, le porte-parole de la DMK, un regroupement de partis politiques qui a soutenu l'illustre disparu lors de l'élection présidentielle de 2020. Figure de proue de l'opposition togolaise ces 15 dernières années, Agbeyome Kodjo avait pourtant fait ses armes politiques dans les années 80 au RPT, le parti au pouvoir d'alors. Plusieurs fois ministre, président de l'Assemblée nationale et premier ministre du Togo, il connaîtra un premier exil en 2002 parce que réclamant des réformes au sein du RPT. De retour au pays en 2005, il participe à l'élection présidentielle de 2010 sans succès. Et la semaine dernière, dans un message adressé à ses militants et diffusé lors d'un meeting de la DMK à Lomé, Agbeyome Kodjo annonçait l'imminence de son retour au pays pour continuer la lutte pour l'alternance au Togo. Depuis ce dimanche, il ne pourra plus réaliser ce rêve. Kossi Oussou, Lomé pour VOA Afrique.
Une audience contre Joseph Kony, fondateur de la rébellion ougandaise de l'armée de résistance du Seigneur en cavale depuis près de 20 ans, aura lieu en octobre, a annoncé aujourd'hui la Cour pénale internationale. L'audience de confirmation des charges contre le fugitif aura lieu le 15 octobre par contumace s'il ne comparaît pas d'ici là. Toutefois, l'affaire ne pourra passer en procès que si M. Kony, 62 ans, est sur le banc des accusés. Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée soudanaise, a déclaré dimanche que le Soudan a pleinement confiance en l'Union africaine et a appelé celle-ci à réintégrer son pays. L'Union africaine avait suspendu le Soudan suite au coup d'État du 25 octobre 2021. À l'occasion de la visite d'une délégation de l'Union africaine à Port-Soudan, le chef militaire soudanais a déclaré que son pays ne prendrait en considération la proposition de l'Union africaine de mettre fin au conflit que si le bloc continental rétablissait son statut de membre à part entière. Les élections prévues en Afrique du Sud fin mai doivent sauver le pays et mettre fin à 30 ans de règne sans partage de l'ANC, un parti corrompu, indifférent et antipatriotique, a accusé aujourd'hui Herman Mashaba, 64 ans, leader d'un petit parti d'opposition. Son parti s'est allié au premier parti d'opposition, l'Alliance démocratique, avec d'autres petits partis pour évincer l'ANC, qui pourrait perdre sa majorité absolue selon des sondages. Les quelques 27,5 millions de Sud-Africains doivent voter le 29 mai pour renouveler leur parlement qui va désigner le prochain président. président. Et puis les États-Unis ont imposé aujourd'hui des sanctions au président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa et à d'autres hauts responsables en raison d'abus présumés dans le pays à la suite d'élections contestées. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Alexandrine Ollognon.
L'Agence nationale de gestion des urgences du Nigeria a annoncé un renforcement de la sécurité dans ses entrepôts après le pillage ce week-end d'un dépôt alimentaire de l'État à Abuja, la capitale. Cette scène de pillage commis par des centaines de personnes est le dernier exemple en date des troubles sociaux provoqués par la flambée des prix. Mardi dernier, des milliers de Nigériens ont manifesté contre la cherté de la vie qui a explosé depuis l'arrivée au pouvoir il y a un peu moins d'un an du président Bola Ahmed Tinubu. L'Égypte a entamé le processus pour offrir la gestion et l'exploitation des aéroports égyptiens au secteur privé, selon un communiqué du gouvernement publié ce lundi. Le pays devrait lancer un appel d'offres international pour l'exploitation des aéroports égyptiens, dont l'aéroport international du Caire, a déclaré le ministre de l'aviation civile du pays, Mohamed Abbas Elmi. Selon Financial Afrique, les principaux indicateurs d'activité économique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sont ressortis en hausse au mois de janvier 2024 par rapport à la même période de l'année 2023, selon les données de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, basée à Dakar, comparée au même mois de l'année précédente.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonjour Jean-Roger, bonjour à tous.
Fin ce week-end des matchs de poule de Coupe africaine Interclub.
Oui, les matchs de la dernière journée de la phase de poule se sont disputés hier en Coupe CAF. Trois tickets restaient à prendre. L'un est allé aux Égyptiens de Futur FC sans pitié devant les Libyens d'Al Ahly Benghazi, qu'ils ont écrasé 5-0. Les deux autres ont été décrochés par les Ghanéens de Dream FC et les Nigériens de Rivers United. Les deux clubs se sont affrontés dans la poule C avec une victoire 2-1 en faveur du club nigérien de Port Harcourt. Avec 12 points chacun, ils valident ainsi leur qualification pour les quarts de finale devant les Tunisiens du club africain accrochés 1-0 à domicile par les Angolais de Lobito. La Renaissance sportive de Berkane finit en tête du groupe D suite à son succès 3-0 face au stade malien.
En Ligue des champions, il restait aussi trois tickets à prendre.
L'Espérance de Tunis, victorieuse 1-0 des Soudanais d'Al Hilal, finissent deuxième du groupe C, derrière les intouchables Angolais du Petro Atlético de Luanda qui n'ont encaissé aucun but durant cette phase de poule. Les deux derniers qualifiés sont les deux clubs tanzaniens Young Africans dans la poule D, malgré sa défaite devant Al Ahly du Caire, et dans la poule B, Simba SC qui a surclassé 6-0 les Botswanais de Nzwaneng Galaxy. C'est une première pour le football tanzanien. Pour la première fois depuis très longtemps, aucun club marocain ni algérien ne jouera les quarts de finale de la Ligue des champions.
Fin hier des mondiaux d'athlétisme en salle à Glasgow, en Écosse.
L'Afrique s'en sort avec 7 médailles, 2 en or et 2 en argent et 3 en bronze en triple saut. Le Burkinabé Hugues Fabrice Zango remporte l'or après un saut à 17,53 m. Il devance l'Algérien Yasser Triki, a classé deuxième. L'Éthiopienne Douguma Gemouchou a aussi élevé son niveau pour remporter le 800 mètres en 2 minutes devant l'Écossaise Gemma Riki et la Béninoise Noélie Yarigo qui s'offre le bronze, une première pour le Bénin au championnat du monde en salle.
Ici en NBA, Boston écrase les Warriors.
Les Celtics, meilleure équipe de la saison et en tête à l'Est, ont écrasé les Golden State Warriors 140-88 pour une 11e victoire consécutive. Pour son 26e anniversaire, Jason Tatum a marqué 22 points de ses 27 points lors d'une première période dévastatrice 82-38 à la mi-temps. De leur côté, après leur victoire face à Oklahoma City jeudi, les San Antonio Spurs ont enchaîné avec un succès contre les Indiana Pacers 117-105. Minnesota a cédé la tête de la conférence Ouest à cause de sa défaite face aux Los Angeles Clippers 89-88. Le triple-double du magicien slovène Luka Doncic, 38 points, 11 rebonds et 10 passes décisives, n'a pas empêché Dallas de perdre 120-116 face à Philadelphie. Les New York Knicks, eux, se sont inclinés face à Cleveland, 108-107-98.
Page de sport VOA Afrique, signé Yacouba Ouédraogo.
Le
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En République centrafricaine, vague de réaction au lendemain de l'arrestation de l'opposant Crépin Bolingumba, arrêté hier à l'aéroport de Bangui, alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour Douala au Cameroun. Monsieur Bolingumba est en détention préventive à l'Office centrafricain de répression du banditisme. À Bangui, la correspondance de Freeman Sipila.
Alors qu'il y avait beaucoup de spéculations sur l'arrestation de Crépin Bolingumba, le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Bangui, s'est prononcé en fin d'après-midi ce lundi sur les faits reprochés à l'opposant politique, Benoît Narcisse Foukio.
Dans la journée du 20 février 2024, au cours d'un point de presse, Monsieur Crépin Bolingumba, haut de sa tribune, a délibérément mis en exergue ses propres intérêts et ceux de ses clients par des critiques acerbes et outrecuidantes contre certains magistrats en activité comme étant à l'origine du non-aboutissement des diverses procédures plaidées par son cabinet. Ces propos, comportant des termes de nature à porter atteinte à l'honneur et à la dignité, seraient susceptibles d'être qualifiés de diffamation et d'outrage à magistrat. Il ne s'agit point d'une affaire ou bien d'un règlement politique, car d'aucuns cherchent à jeter à tort le discrédit sur les autorités politiques et les institutions de la République.
Selon des documents de la police fuités sur les réseaux sociaux, Crépin Bolingumba, avocat au barreau de Centrafrique, fait l'objet d'une enquête pour outrage à magistrat. L'enquête a été confié le 29 février à l'Office centrafricain de répression du banditisme, unité de la police chargée de traquer les bandits. Son mode d'arrestation passe mal pour Martin Ziguélé, un des leaders de l'opposition et membre de la plateforme politique BRDC.
Ce qui est arrivé à Maître Bolingumba, c'est une arrestation arbitraire. Et donc, il faut que les choses soient claires. Il a été implicitement traité comme un criminel, un grand bandit. Et nous pensons que la volonté d'humilier, de le détruire psychologiquement, de détruire son image est manifeste. Nous ne disons pas que un leader politique ou un centrafricain quelconque est au-dessus de la loi. Mais nous voulons que la loi, dans son application, soit respectée.
Depuis son arrestation, Crépin Bolingumba n'a eu accès ni à ses avocats, ni aux membres de sa famille. Au barreau, ses collègues avocats ont décidé de boycotter les audiences jusqu'à nouvel ordre. Maître Émile Bison, bâtonnier de l'ordre des avocats.
D'abord, la base a considéré cette situation comme un manque de respect et un mépris vis-à-vis non seulement de leurs représentants, mais de l'ensemble du corps. Et sur cela, la base a décidé de ne pas prendre part aux audiences à compter de ce jour et de manière illimitée. Cela concerne toutes les juridictions de la République centrafricaine.
Fin février, lors d'une conférence de presse, Crépin Bolingumba a dénoncé une mafia au sein de l'appareil judiciaire centrafricain. Il avait notamment pointé du doigt le ministre d'État à la Justice, Arnaud Dubaï Abazen, d'entretenir un réseau de mafieux et de corrompus. Sa sortie avait suscité la colère des autorités judiciaires qui avaient promis des sanctions disciplinaires et sa traduction en justice. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
La voix de l'Amérique, Bangui 101.7 FM.
Au Burkina Faso, une caravane de sensibilisation contre la consommation de la drogue. Oskimoto, jeune propre sans drogue, va sillonner une dizaine de localités pour sensibiliser les jeunes aux méfaits des stupéfiants. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
À Saba, une commune de la banlieue de Ouagadougou, la caravane Oskimoto, jeune propre sans drogue, vient d'être lancée. Cela fait 17 ans qu'elle parcourt le pays. Le rappeur Wediak, ancienne gloire de la musique burkinabé, avait sombré dans la drogue il y a quelques années. Témoignage pour la jeunesse d'aujourd'hui. Yassine Ouedraogo dit Wediak.
Plusieurs fois j'ai fait des cures, je suis tombé, je suis relevé. Et ce que je retiens de tout cela, c'est que quand on dit quand Dieu t'aide, il faut t'aider toi aussi. C'est dit, il faut y mettre la volonté réellement. J'interpelle vraiment la jeunesse. À cette partie de la jeunesse qui n'a pas encore touché aux stupéfiants, franchement, je vous prie de vous garder, de vous éloigner de cette toxine là, qui détruit réellement et qui n'arrange pas. Et à toutes les personnes, là, toute cette jeunesse qui est encore plongée là-dedans, que Dieu leur donne la force de vraiment de se saisir et d'en sortir.
Le lancement de la caravane dans la plus grande commune de Ouagadougou n'est pas fortuit. Kassoum Kabouri, président de la délégation spéciale de la commune de Saba.
La consommation de la drogue dans notre commune prend de plus en plus de l'ampleur. Donc nous saluons l'organisation de la caravane qui a sa 17e édition pour sensibiliser les jeunes sur les méfaits qu'ils encourent en consommant la drogue.
La lutte contre la drogue reste un véritable problème de santé et une préoccupation pour le ministère de la Santé. Docteur Olivia Ouedraogo, directrice de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles au ministère de la Santé.
Selon les données statistiques, en 2023, on a enregistré plus de 1747 cas de consommateurs de drogue dans les formations sanitaires. Et on se rend compte que de plus en plus, la consommation de la drogue est un fléau dans nos lycées ou collèges où sont nos enfants, nos frères et sœurs.
Cette année, les organisateurs de la caravane ont lié la lutte contre la drogue aux problèmes sécuritaires que connaît le pays. Youssouf Sawadogo, le promoteur de Oskimotu, jeune propre sans drogue.
Vous savez, quelqu'un qui est lucide ne va pas oser aller dans une mosquée ou une église ou dans un village, aller carnader les gens. Voilà. Mais quand tu n'es pas lucide, le temps de t'en rendre compte, tu as fini de faire des dégâts. Donc c'est pour dire simplement, même quand vous voyez les gens, même en circulation, quand on n'est pas lucide, on peut brûler le feu. Celui qui est lucide, on vient le cogner. Tout ce qui peut vraiment déranger les jeunes, il faut faire un travail de prévention. Et c'est ce que nous essayons de faire.
Au moment où la caravane s'apprête à sillonner, en plus de Ouagadougou, six autres villes de l'intérieur du pays, la douane de Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays, vient de saisir 740 plaquettes de chanvre indien. Selon la direction générale des douanes, la valeur de cette saisie est estimée à plus de 52 millions de francs CFA. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Selon l'organisation caritative Water Aid, 25% des communautés rurales de l'Eswatini manquent d'eau potable et 40% de ces communautés n'ont pas accès à l'eau. Nokukania Moussi nous en parle depuis Mbafungwane dans la région de Lubombo. Le récit avec Alexandrine Oloyon.
Djabou Gamedze parcourt 2 km pour se rendre à la rivière Kulubane. La seule source d'eau près de chez elle, à Mafungwane, dans la région de Lubombo, en Eswatini. Bien que l'eau soit contaminée et que son trajet soit dangereux, avec des risques de vol et d'agression sexuelle, Djabou Gamedze dit qu'elle n'a pas d'autre choix.
Au fur et à mesure que les saisons deviennent plus chaudes et plus sèches, l'eau dont nous dépendons se raréfie. Le puits qui nous a permis de survivre pendant si longtemps commence à s'assécher et notre avenir est en jeu.
Selon les Nations Unies, les températures moyennes annuelles en Eswatini ont augmenté de plus de 3 degrés Celsius entre 1961 et 2000. Ces changements ont entraîné une diminution du débit des principaux bassins fluviaux et une augmentation des cas de maladies d'origine hydrique. Chelukolo Silolo dit qu'en plus de se préoccuper d'obtenir de bonnes notes à l'école, il doit se préoccuper d'avoir de l'eau tous les jours. Il dit qu'il s'endort souvent en classe.
Nous devons nous lever tôt pour aller chercher de l'eau avant d'aller à l'école, ce qui a un impact négatif sur nos études. Lorsque nous arrivons à l'école, nous sommes déjà fatigués et nous nous endormons souvent en classe.
Melvin Dlamini, membre du comité de développement communautaire de Mafungwane, explique que les enfants de Mafungwane sont malades et que l'eau est impure. Les habitants n'ont pas d'autre choix que de la boire, même s'ils savent qu'elle les rendra malades.
Nos enfants sont malades et notre eau est impure. Nous n'avons pas d'autre choix que de la boire, même si nous savons qu'elle nous rendra malades.
Les agences d'aide internationales telles que Water Aid et World Vision International s'efforcent de résoudre la crise de l'eau en Eswatini en finançant la construction de systèmes de filtrage de l'eau et de nouveaux puits, ainsi que l'amélioration des installations sanitaires. L'agence d'aide italienne Cooperation for the Development of Emerging Country, ou COSP, collabore avec les habitants de Mafungwane à la construction d'un nouveau système de filtration de l'eau qui sera bientôt inauguré.
Ils identifient les problèmes qui les affectent en raison du changement climatique et ils proposent également des solutions sur la manière dont ils peuvent s'adapter et traiter ces problèmes.
En 2023, le gouvernement de l'Eswatini a alloué des fonds pour améliorer les systèmes d'approvisionnement en eau, ce qui bénéficiera à plus de 41 000 personnes.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Les électeurs de plus d'une douzaine d'États américains se rendent aux urnes demain mardi pour choisir le candidat de leur parti à l'élection présidentielle de novembre. Au cours du week-end, tous les candidats ont intensifié leurs critiques à l'égard de leurs adversaires et ont exposé leurs priorités aux électeurs. Véronica Balderas Iglesias de la VOA nous en dit plus dans ce reportage relaté par Gabi Dorsil.
Les électeurs de 15 États américains et des Samoa américaines se rendront aux urnes ce mardi 5 mars, ce que l'on appelle ici le Super Tuesday. Vu que la majeure partie des délégués sont attribués lors de ces scrutins, le président démocrate Joe Biden et son prédécesseur républicain Donald Trump devraient tous deux se rapprocher de l'investiture de leur parti. L'ancienne ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, qui tente le difficile pari de rattraper Trump dans la course électorale, a déclaré dimanche à l'émission Meet the Press de la chaîne NBC qu'elle resterait candidate aussi longtemps que les électeurs le voudraient.
Ils le montreront par leur vote, ils le montreront par leurs dons. Nous devons sécuriser nos frontières et être un pays de droit et d'ordre. Et nous croyons à la paix par la force.
L'immigration fait également partie des sujets sur lesquels l'ancien président Trump a choisi de se concentrer à l'approche du Super Tuesday.
Pas une seule vie américaine innocente ne doit être perdue à cause de la criminalité des migrants. Il faut y mettre un terme. Nous devons aller voter parce que nous voulons une forte participation le 5 novembre. Nous devons leur faire savoir que nous sommes en train en marche, nous allons de l'avant et nous ne nous arrêterons pas.
Le président Biden, qui s'est rendu à la frontière du Texas la semaine dernière, accuse Trump de faire échouer un projet de loi bipartisan sur la sécurité frontalière. Samedi dernier, la première dame Jill Biden a fait la lumière sur un autre sujet qui, selon elle, devrait être pris en compte par les électeurs avant le Super Tuesday, les droits reproductifs des femmes.
Il envisage d'interdire l'avortement au niveau national. Donald Trump est dangereux pour les femmes et pour nos familles. Nous ne pouvons tout simplement pas le laisser gagner.
Le président Biden est pratiquement assuré d'être le candidat de son parti, le Parti démocrate. Du côté républicain, Donald Trump doit obtenir au moins 1215 délégués pour obtenir officiellement l'investiture. L'annonce officielle des résultats de tous les scrutins de mardi pourrait prendre plusieurs jours.
Alexandrine Rolonio avec vous cette semaine dans Washington Forum. Mardi 5 mars, Super Tuesday, date cruciale du calendrier des primaires pour la présidentielle aux États-Unis. Le président démocrate Joe Biden et le candidat républicain Donald Trump pensent déjà au-delà du cap des primaires pour se concentrer sur la revanche attendue de l'élection générale. Par ailleurs, la Cour suprême des États-Unis a rejeté une décision du Colorado déclarant Trump inéligible. Que pensez-vous de ce duel retour opposant Joe Biden à Donald Trump qui s'annonce? Quels sont selon vous les grands sujets qui vont dominer cette campagne présidentielle aux États-Unis? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde de Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.